Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral, une émission spéciale dans le cadre de l'édition 2020 des correspondances de Manosque, animée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et oui, une émission particulière, nous allons parler littérature et nous allons parler aussi musique dans cette émission. Et comme de coutume, on va ouvrir cette émission avec le programme du jour qui nous est délivré par le directeur des correspondances. Et pas uniquement le programme du jour d'ailleurs, puisque nous n'avons pas d'émission demain dimanche, mais donc Olivier nous présentera le programme de ce week-end. Un beau week-end en perspective pour clore les correspondances.
Oui, et à l'instant même démarrent d'une part nos apéros littéraires et d'autre part, pour ceux qui ont fait le choix de Jean Giono, un documentaire réalisé par Fabrice Gardel. Dans l'après-midi, sieste acoustique et littéraire de Bastien Lallemand, 14h30. Et à 15h, plusieurs possibilités. On peut retrouver Jean-Marie Blas de Robles pour un livre passionnant d'imagination et d'érudition accessible, où au texte d'ailleurs s'ajoutent des dessins assez formidables qu'il a fait lui-même. 15h toujours, Adèle Van Rett, une philosophe, mais là aussi une philosophe tout à fait accessible. Ou encore, on pourra assister au dialogue entre Patrick Lapeyre et Victor Pouchet. À 16h30, Rebecca Ligieri, auteure vraiment passionnante, et je le dis pour ceux qui ne le savent pas, c'est le pseudo d'Emmanuel Bayamaktam, auteur reconnu, et le versant un peu plus sombre, elle le fait sous le nom de Rebecca Ligieri. Là, c'est un roman qui se passe à Marseille. Il est des hommes qui se perdront toujours. Magnifique. 16h30 également, Camille de Toledo. Un récit familial où il essaye de comprendre où se joue le nœud qui a provoqué un drame dans sa famille, puisque son frère s'est suicidé très jeune. Et il essaye, en remontant cette histoire familiale, de voir quel est ce point noir qui est passé de génération en génération. Ou alors, 16h30, Chloé Delhomme, pour un livre drôle, mélancolique, mordant. Elle va en faire une lecture. 18h, un des grands livres de la rentrée, à mon sens, Éric Reinhardt, Comédie française au pluriel. Ou alors Dima Abdallah, qui dialoguera avec Sarah Chiche. Ou encore Constance Debré, qui est notre nouvelle résidente. C'est elle qui prend le flambeau à Mathilde Forget. Donc les manosquins auront l'occasion de la retrouver tout au long de l'année. Ou enfin, proposition de Lola Lafont. Son livre est très beau, ça s'appelle Chavirer. Elle va en faire une lecture musicale et ce sera suivi d'un petit entretien. La soirée, nous la passerons avec Michel Vuillermoz, immense comédien de la Comédie française, qui viendra nous lire les lettres du mauvais temps de Jean-Patrick Manchette, celui qui a dynamité le polar français dans les années 70 en l'embarquant d'abord sur une très belle écriture et surtout en lui conférant une dimension politique qui était nouvelle à l'époque. Et nous terminerons la soirée par une création du chanteur Gaël Faure, qui, accompagné de Nicolas Martel, comédien, nous présenterons Le bruit du blé, un spectacle autour des textes de Jean Giono. Et puis dimanche, on poursuit sur ce rythme effréné. À 11h, Serge Joncourt, bien connu des manosquins pour un livre formidable qui, de façon très romanesque, nous raconte la bascule du monde paysan dans les années 80, comment il a fallu investir, travailler nécessairement avec l'industrie des grandes surfaces et comment un piège s'est un peu refermé sur les agriculteurs. Apéro littéraire, documentaire de Jérôme Prieur, beaucoup de choses donc en matinée. Et puis l'après-midi, les siestes, Marie-Hélène Lafont, qui est une habituée des correspondances. À 15h, légèrement plus tard, un dialogue entre Véronique Olmy, qui vient pour la première fois à Manosque d'ailleurs, je profite pour le souligner, et Angélique Villeneuve, ou alors Dany Héricourt et Hugo Lindenberg, deux des premiers romans les plus marquants de cette rentrée. À 16h30, Barbara Cassin, la philosophe, ou alors on a deux philosophes cette année, ou alors Camille Brunel qui discutera avec Xabi Molia. Xabi Molia, livre prémonitoire, puisque ça se passe en Europe, il y a une pandémie, les gens se sauvent, un groupe prend un paquebot qui va partir vers l'Amérique du Sud, va s'échouer sur une île déserte, et là, les survivants, 150 personnes, vont refaire société. Et immédiatement, deux clans vont se faire, certains vont vouloir se faire élire représentants de leur clan, des histoires politiques vont éclore, bref, une mini-société qui nous explique celle que nous vivons. 16h30, toujours, Marie-Ève Thuot, premier roman qui nous vient du Québec. On a réussi à l'attraper malgré les difficultés de voyage ces temps-ci. Et elle sera aux côtés de Francesca Serra, là aussi un magnifique premier roman de cette rentrée littéraire. Ça s'appelle « Elle a menti pour les ailes ». Je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça se passe dans le monde des ados, des réseaux sociaux, de ce qui s'y joue. C'est passionnant d'intelligence et très très beau livre. On va clore cette édition des correspondances avec Proust. On sera dans la chambre de Proust. C'est vrai, quand on a fait la programmation, il y avait un petit clin d'œil au confinement. Proust s'est confiné volontairement. Sa chambre, c'était son bureau d'écriture. C'était sa chambre de vie. Il y passait tout son temps en décalé. Il vivait la nuit, il dormait le jour. De temps en temps, on lui organisait une petite sortie en pleine nuit dans des salons mondains. Mais voilà, on va découvrir la vie de Proust par sa gouvernante, Céleste Albaret, qui nous raconte vraiment l'intimité absolue de ce génie qu'est Proust. Et c'est Marianne Denicourt qui nous lira ce texte, Monsieur Proust.
On finira donc en Madeleine sur ces correspondances 2020. Pour l'instant, nous sommes samedi, nous sommes en direct avec plusieurs invités et j'avais envie cette année de faire un focus sur une opération très très particulière qui au départ s'appelait le battle littéraire, maintenant c'est devenu le karaoké littéraire. Nous entendrons dans un instant le musicien qui accompagne ces pérégrinations littéraires très particulières sur la place Marcel Pagnol à Manosque, mais nous entendrons d'abord le comédien Raphaël France-Kuhlmann qu'on entend régulièrement lorsqu'il fait des lectures littéraires, lorsqu'il fait des manifestations très particulières où effectivement il est comédien et il joue son rôle à la perfection. Mais là, c'est très particulier et c'est une animation festive. C'est pas si fréquent. Donc je vous propose d'écouter Raphaël France-Kuhlmann et puis on se retrouve tout de suite après avec Olivier Vauquelin qui est le musicien qui accompagne ces karaokés littéraires. C'est un moment très ludique pendant les correspondances. Le battle que vous animez, Raphaël France-Kuhlmann, comment ça se passe ?
C'est un karaoké littéraire, c'est-à-dire que les gens montent sur la scène, découvrent un texte en même temps que le public, ils vont le lire en direct devant le public, accompagné d'un musicien qui improvise sur la lecture.
Le public suit ?
Le public suit, tend l'oreille, est à l'écoute, participe, peut intervenir. Ah oui, absolument.
Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment ludique dans ce festival qui en contient relativement peu. Hein. On a beaucoup de rencontres littéraires, mais pas une rencontre comme ça qui fait appel à des jeunes notamment.
Oui, c'est vrai, c'est un rendez-vous très simple, chaleureux, ouvert à tous, parce qu'effectivement c'est un moment où il y a beaucoup de jeunes. Il y a d'ailleurs des tout-petits, des collégiens, des fois il y a même des lycéens. Et les adultes aussi sont invités à participer à l'événement, et c'est vrai que ça crée un moment, on va dire familial, familier même, je dirais. Et ça fait du bien, oui, quelque chose où on peut se détendre, oser aussi, se surprendre et surprendre les autres.
Il y a aussi un monsieur Loyal.
Monsieur Loyal, oui, bah oui, il en faut bien, hein, il en faut bien, exactement. Oui, tout à fait. Le Jacques Martin de Manosque.
Parlons de vous justement, Raphaël. Vous êtes comédien aussi. Qu'est-ce que ça représente chez vous, cette insertion dans les correspondances, depuis déjà plusieurs années ?
Oui, ça fait plus de 10 ans. Ça représente une bulle dans l'année, une plongée dans les mots, n'est-ce pas ? C'est un moment léger et à la fois profond, parce qu'on est dans l'expression, dans les mots, dans différents univers. Et puis, j'avoue que c'est un métier que j'apprécie énormément, étant donné la chance que j'ai de pouvoir être payé à lire des livres et partager ça avec des gens passionnés, partager ça sur une scène, partager ça avec des jeunes, partager ça avec tout le monde. Et c'est des moments assez rares dans l'année. C'est précieux, c'est précieux.
Pour revenir à ce karaoké, vous arrivez à déceler chez les jeunes de vrais talents ?
Des talents, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là. Après, Je pense surtout que c'est eux-mêmes qui se découvrent, en fait. Nous, on en voit beaucoup défiler. Alors, on peut constater que telle personne ou tel jeune s'en est mieux sorti ici ou là, ou a très bien lu, ou nous a épatés, etc. Mais je pense que c'est surtout eux-mêmes qui se surprennent, en fait. Et c'est ça, surtout, le but. Ça concerne d'ailleurs toutes les générations, je pense, parce que j'ai là en mémoire, en fait, le souvenir d'une vieille dame. C'était à Grenoble. On faisait aussi un karaoké littéraire là-bas. Et c'était pour cette vieille dame un moment très fort d'avoir pour la première fois de sa vie posé un pied sur une scène juste pour lire un texte devant un public. Et ça a été pour elle quelque chose d'énorme dans sa vie. Alors que c'est a priori pas grand-chose, juste lire une page devant des gens. Bon, on est accompagné d'un musicien, donc c'est particulier, mais c'est plutôt ce genre de moments, je trouve, qui font sens, qui donnent de la valeur à cet événement.
Les jeunes qui sont là sont accompagnés par leurs professeurs, par exemple?
Oui, ils sont accompagnés par les professeurs qui accompagnent les élèves. Et c'est hyper important. C'est hyper important que les élèves soient bien accompagnés par leurs professeurs. Un professeur investi, c'est tout ce qu'il y a de mieux pour ce genre d'événement. Ça nous garantit aussi que les élèves arrivent dans de bonnes conditions. Et que les professeurs eux-mêmes aussi, tout à l'heure, une professeure a lu avec un élève. Ça croise les générations, ça croise aussi les milieux. Et si en plus professeurs et élèves peuvent participer ensemble à ce genre de choses, bah c'est gagné, c'est bien.
Le monsieur loyal des karaokés littéraires, Raphaël Franz-Kuhlmann, et pour cette édition, il était accompagné d'un faiseur de bruit, on va l'appeler comme ça, parce que c'est très très étonnant tout ce qu'il fait. Olivier Vauquelin, il est avec nous en direct. Bonjour Olivier.
Bonjour.
On peut rappeler que vous êtes musicien. Alors, hier, dans votre exercice très particulier d'accompagner, on en parlera plus longuement dans un instant, je vous ai vu avec une contrebasse, une guitare, faire des effets très, très spéciaux. Vous êtes musicien professionnel, vous êtes engagé dans des groupes, et après on parlera de votre insertion, comme j'ai dit à Raphaël, dans les correspondances.
Alors, musicien professionnel, donc officiellement oui, depuis 2 ans maintenant. Voilà, j'ai arrêté une activité parallèle et pour faire uniquement ça, qui était une passion depuis plus de 10 ans. Et puis voilà, arrivé 40 ans, je me suis dit que c'était l'âge de faire que ça.
Vous êtes dans quel style de musique et avec quels ensembles?
Alors, style de musique, la musique, je dirais plutôt pas expérimental non plus, mais dans ce registre, disons, il y a une recherche musicale, et avec différentes formations, groupes de moins en moins, mais des spectacles de plus en plus, et au sein d'un collectif basé à l'URSS, le collectif Et Autre Chose Inutile, entre autres, voilà, un spectacle pour enfants, Jamil le crocodile qui perdit ses dents, je peux dire le nom, un BD concert, Là où vont nos pères, une bande dessinée, donc on a adapté à l'image, et voilà que je joue avec mon collègue Martin Mort, ouais, qui tourne plutôt dans la région, entre autres. Et puis des lectures musicales qu'on accompagne beaucoup au sein des médiathèques de la DLVA, déjà, dans lesquelles on tourne depuis 4 ans maintenant. Le prix des médiathèques de la DLVA, qu'on accompagne, des lectures musicales beaucoup. Et voilà, des productions locales qu'on a mis en musique, des ateliers. Ouais, c'est assez éclectique, à vrai dire.
Et en même temps, une participation aux correspondances. Alors, je vais expliquer 2-3 petites choses sur ce que vous venez de dire pour nos auditeurs. L'URSS, c'est un magnifique village, à ne pas confondre avec un fait divers célèbre, un magnifique village dans les Alpes de Haute-Provence. C'est là où vous résidez. Et puis, vous avez parlé de la DLVA. La DLVA, c'est l'agglomération Manosquine, donc la collectivité territoriale qui commande notamment toute la dynamique culturelle sur ce territoire, ici même. Vous avez aussi vous avez parlé de votre action envers la littérature jeunesse. Oui. Il y a un lien de confiance qui s'est établi avec une association extrêmement importante sur la DLVA et sur Manosque, c'est Éclat de Lire.
Exactement. Alors, Éclat de Lire, je suis un petit pense-bête. Donc, c'est une association que les manosquins connaissent bien, puisque ça fait 20 ans qu'elle exerce, et elle a pour but de diffuser le plus largement possible l'accès à la culture par le biais du livre jeunesse, et notamment auprès de ceux et celles qui en sont le plus éloignés. Et voilà, il y a un volet événementiel avec la programmation d'animation dans les correspondances chaque année, et puis aussi autour du livre, de la fête du livre jeunesse, qui a lieu au mois de mai.
C'est le temps fort de cette association,
c'est
effectivement.
Ça, voilà, en partenariat avec Croque Livre, une association
de Fort-Calquier.
Voilà. Et aussi, tout au long de l'année, des résidences d'artistes et puis les bibliothèques de rue, surtout, qui sont animées par une trentaine de bénévoles hyperactives. et j'ai été invité cette année effectivement à faire des interventions musicales. Donc au début de l'année, on a commencé en percussion corporelle et en poésie. L'idée, c'était de faire lire les enfants, évidemment, au sein des bibliothèques de rue. On m'a demandé de proposer une idée, donc j'ai proposé de slammer sur des poèmes issus d'un livre qui est un recueil de 52 poèmes de Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert, Paul Éluard et Robert Desnos. Voilà,
des jeunes classiques. Qui montent.
C'est ça. Et surtout, ce qui était chouette avec ce livre, qui s'appelle les 4 saisons en sortant de l'école, c'est que c'était 52 poèmes et aussi 52 courts-métrages d'animation. Par 52 réalisateurs voilà, différents, issus des écoles d'animation. Et c'était très chouette parce que l'idée, justement, de non seulement d'abord découvrir les poèmes en les lisant, et puis de manier les mots. Et puis, il était prévu, à l'issue, justement, de ces ateliers découvertes slam, et puis qui sont transformés en percussion corporelle pour les accompagner, de faire une projection au cinéma de Manosque de court-métrage, ce qui n'a pas pu se faire parce que le confinement est arrivé. Donc ça a un petit peu bouleversé notre agenda et ça s'est transformé à post-confinement à des ateliers de percussion corporelle dans le quartier des Alisiers, et puis à une fête de quartier sous ton balcon, je crois ça s'appelait, et très chouette. Donc les enfants lisaient le poème Liberté de Paul Éluard, je crois qu'il y a 19 strophes, et en slam et en percussion corporelle. Les percussions corporelles, ça va, ça vous parle?
Oui, ça me parle.
Voilà,
ça
on
me
se tape
parle,
dessus, les enfants adorent, et voilà, c'est plutôt chouette de manier le rythme et les mots.
Comment ils réagissent justement les enfants quand vous proposez un accompagnement musical?
Eh bien au début, il y a toujours une ou deux filles. Et puis après, elles sont 5 ou 6 filles. Les garçons restent toujours autour, faire du boucan, jouer au ballon, nous enquiquiner. Mais dès que ça commence à taper, à avoir du rythme, et qu'ils se rendent compte qu'en fait, on fait des choses très chouettes avec juste nos mains, nos pieds, eh ben, très vite, on est 15, 20. Et ça prend plutôt bien. C'est ça, l'idée justement que j'avais en intervenant dans les quartiers avec des percussions corporelles, c'était pas d'arriver avec des instruments
trop sophistiqués,
c'est ça, une contrebasse, et puis de repartir au bout d'une heure en leur disant bon ben débrouillez-vous maintenant. Mais c'était plutôt de leur transmettre l'idée que il suffit d'ouvrir un bouquin ou d'écrire un texte, ou de slammer avec une chanson qu'on connaît, peu importe, mais de jongler avec les mots et avec son corps.
Quand vous avez accompagné le karaoké littéraire hier, par exemple, avec Raphaël Franz Kuhlmann, vous connaissiez les textes qui sont lus et slamés par les jeunes ?
Pas du tout, et c'est volontaire en même temps. L'idée, c'était... déjà, Raphaël avait fait une présélection des textes. Quand un enfant ou un adulte levait la main et montait sur scène, il savait déjà, je vais lui donner tel ou tel texte. A priori, puisqu'il ne lui donnait pas le premier sur la pile. Et le participant, la participante, avait la consigne de me donner un ou deux mots, issus comme ça, en découvrant, parce que les participants aussi découvraient le texte au moment où ils montaient sur scène, donc c'était pas toujours évident pour eux non plus, surtout pour les collégiens, je dirais. Et il me donnait deux mots, alors ça va être liberté et amour, par exemple. Alors je choisis un instrument parmi ce que j'avais ramené, donc j'avais une scie musicale, des percussions métalliques, guitare, contrebasse, entre autres, et d'autres instruments, des pédales d'effet. Enfin, j'avais un petit peu justement prévu une gamme assez vaste pour pouvoir improviser.
Alors, pour avoir assisté, moi, à votre karaoké littéraire, je peux dire que votre jeu de contrebasse, il n'est pas très, très catholique, entre guillemets. Vous tapez sur la table de la contrebasse. Enfin, c'est très rythmé, mais en même temps, ça porte la lecture des jeunes. C'est le rôle que vous avez dans ce karaoké ?
Exactement. Ben, c'est merci de l'avoir ressenti, en tout cas, parce que c'est mon rôle, oui, évidemment, c'est de porter la lecture, c'est d'accompagner, c'est aussi de... Ben, d'illustrer en même temps assez sommairement et puis de pousser, de porter, d'emmener aussi. Alors en découvrant les textes, évidemment je peux me tromper de route, et c'est délicat parce que je peux aussi ni choisir le bon instrument ni prendre le bon rythme. Bon, la tonalité, pour le coup, quand on parle, ça va, c'est pas un problème, sinon ce serait très délicat, mais ça fonctionne la plupart du temps. Puisqu'on peut en oublier presque le sens du texte et juste pour la musicalité des mots. Comme quand on écoute une chanson dans une langue étrangère, on trouve ça très joli.
Et c'est vrai que ça accroche le public, parce que d'abord c'est visuel, et en même temps, effectivement, ça donne un rythme, et puis ça pulse pour les jeunes qui lisent, qui sont devant vous, hein, qui sont devant entre vous et le public. Ouais. Et en même temps, c'est vrai qu'avec le Monsieur Loyal, avec Raphaël Franz Kuhlmann, c'est un bel ensemble et c'est une belle chose. Rendez-vous l'année prochaine, Olivier ?
Eh bien, moi je suis partant. Moi qui déciderai, mais ça a l'air bien parti aussi. Ils avaient l'air assez contents de la performance et puis on a eu des très bons retours, donc je le souhaite.
On l'espère. Vous restez avec nous parce qu'on a préparé une petite surprise pour la fin de l'émission. Et puis, on va accueillir notre prochain invité en musique.
Abonné absent. Si tu veux savoir comment ça va seul, comment ça va sans. Si tu veux savoir comment ça avoir, comment y a personne. Si tu veux savoir, j'ai fait ça pour rien. J'ai fait ça très bien. J'ai fait ça pour rien. Si tu veux savoir, j'aurais préféré tes soleils couchants, ta plage en été, ta robe de mariée, le troisième enfant. Si tu veux savoir, comment t'es plus là, combien je te dois. Si tu veux savoir, j'ai la panoplie de mon ennemi. J'ai fait ça pour rien. J'ai fait ça très bien. J'ai fait ça pour rien. Si tu veux savoir, j'aurais préféré tes soleils couchants.
On connaissait le musicien, compositeur et auteur de Frères Animal, présenté aux correspondances de Manosque. Et aujourd'hui, on découvre un auteur qui publie Le Monde du Vivant chez Stock. Bonjour Florent Marché.
Bonjour.
Pourquoi et comment passe-t-on de la partition à la page blanche ?
À la page blanche. Alors la page blanche, ça ne me parle pas trop. J'ai jamais eu déjà les affres de la page blanche, non ?
Alors peut-être l'ordinateur qui permet d'écrire aussi sous Word ou des choses comme ça ?
Oui, j'écris rarement à la main, même des chansons, je ne supporte pas mon écriture. Ça me renvoie à un truc de l'école et étonnamment l'ordinateur m'a libéré en écriture.
Ça va, je ne suis pas le seul. Ça va.
mais comment on passe de... J'ai pas l'impression que ce qui s'est décidé à un moment donné, c'est d'aller plus loin que l'écriture de nouvelles ou de chansons écrites en prose, en définitive. C'est d'avoir plus de temps pour s'installer dans une histoire. Mais ça fait quelques années que ça me...
Ça vous trotte ?
Oui, bien sûr. Ça
va. En même temps, vous dites des chansons, oui, mais ce sont aussi des histoires. Je pense à Frères Animal. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a tout un ensemble et qu'on retrouve dans la littérature, dans un roman, en l'occurrence dans Le Monde du Vivant. Alors, on va parler évidemment de cette œuvre très particulière. C'est l'histoire d'une famille d'Orléans qui est transplantée en campagne. Mmh. Le père Jérôme, il est ingénieur agronome, il se convertit à l'agriculture conventionnelle, on dit raisonnée aussi parfois, et il achète une exploitation. Il s'endette et croule sous le boulot. Sa femme Marion fabrique et vend des fromages. Les temps sont durs et les enfants en souffrent, surtout Solène, 14 ans, personnage principal du roman. Florence, c'est une plongée dans le monde paysan, on y reviendra bien sûr, mais pourquoi ce choix ?
Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie en milieu rural, à la campagne. J'ai quitté ce milieu pour faire de la musique, en fait, parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres choix. Ou en tout cas, à l'époque, je voyais pas d'autres possibilités. Il y avait cette envie aussi d'aller à Paris pour rencontrer des musiciens. Bon, bref, ça s'est fait comme ça et j'ai fait ma vie là-bas. Quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je pense que c'était un moment où la campagne me manquait atrocement et c'est une première façon de retrouver aussi cette campagne, de la décrire de manière assez impressionniste et puis aussi de décrire la réalité du du monde rural, mais pas que. C'était aussi des questionnements sur l'adolescence, sur l'héritage transgénérationnel, notamment des névroses, de tas de choses comme ça. C'était un petit peu tout ça qui était mêlé, le fait de raconter à travers ça, moi aussi, mon expérience de la paternité, qui bouleverse énormément de choses, qui déplace des curseurs, et puis... Donc c'est un ensemble, mais après, quand on commence l'écriture d'un livre, comme celle d'une chanson, on va avant tout à la rencontre de soi, on ne sait pas vraiment où on va, puis heureusement, parce que sinon on n'irait pas. J'ai commencé un premier chapitre avec ce personnage de Solène qui déteste son père, qui déteste la campagne, qui déteste les odeurs des animaux, du travail physique, et puis j'ai déroulé, voilà.
Alors Solène, elle déteste la campagne parce qu'il n'y a pas de réseau, par exemple, hein, des choses comme ça. Florent, vous vous êtes renseigné comment sur le monde paysan? Vous avez été voir la FNSEA, un syndicat agricole,
certainement pas.
L'INRA, comment?
Non, parce que le FNSEA, c'est certainement pas les meilleurs ambassadeurs du monde paysan, mais plutôt de l'agriculture intensive. Donc c'est les derniers que je serais allé voir. Mais non, disons que... moi, je reste attaché à ce monde paysan, d'une part parce que mes grands-parents, étaient métayers et j'ai grandi avec l'idée de cette ferme qui était perdue, puisque mes grands-parents l'ont abandonnée parce qu'ils n'ont pas pu la racheter. Et ça s'est fait justement au moment où on a commencé à mettre en place le plan Marshall et à transformer toutes les petites exploitations, les fermes, notamment du Berry, on a commencé à réunir des parcelles pour faire de plus grosses exploitations et essayer de calquer sur un modèle qui n'était pas du tout en accord avec le territoire. Et on a massacré comme ça des tas d'exploitations, des tas de fermes. Et l'ironie du sort, c'est que mon grand-père, qui n'aspirait qu'à une chose, c'était travailler la terre et vivre auprès de ses bêtes à la ferme, s'est retrouvé ouvrier dans une usine qui fabriquait des machines agricoles. C'est pourquoi lui, il était mis justement au chômage. Donc j'ai grandi avec tout ça en tête, c'est-à-dire que j'ai été sensibilisé très très jeune au désastre de l'agriculture intensive, de la monoculture, de comment on avait créé aussi avec le remembrement de l'érosion, comment on avait détruit les sols, comment on les avait stérilisés, comment... Bon, et
en fait, c'est le monde du vivant, tout simplement.
Exactement. Donc, en fait, tout ça, c'est des questionnements, voilà, des choses qui m'animent depuis longtemps, sur comment on a abîmé aussi l'alimentation. On m'a appris ça. Donc, le roman, il est nourri aussi de ça. Et puis, je retourne très régulièrement dans le Berry, et je connais beaucoup d'agriculteurs du coin que je peux fréquenter. Donc, je connais un petit peu leur métier, oui.
Alors, on poursuit l'analyse de votre roman, entre guillemets. Marion, la mère, se blesse et le père, Jérôme, est obligé d'embaucher un woofer. Alors, les woofers, ce sont les Willing Workers on Organic Farms. Ce sont des travailleurs volontaires, mais pour travailler dans le bio. Et ce sont des gens qui militent pour la décroissance, notamment. Et Théo, donc, et ce fameux Théo, il va déranger l'organisation de la maison avec ses théories sur la décroissance. Il crée l'émoi aussi chez Marion et Solène, sensible à son charme. L'intrigue se déroule entre décrépitude de la ferme et du noyau familial, émergence de la sexualité chez Solène, avec un final violent et dramatique. Il y a aussi la description des sensations de Solène, le monde des adolescents fait de paraître et d'excès. Et puis j'ai choisi, Florent, deux extraits dans votre livre. Tout d'abord, un tableau social sur le tennis, où c'est un club de tennis comme il y en a tant d'autres en France, où les riches et les pauvres sont confrontés. Et on sent bien dans cet extrait tout cela. Les riches jouent à merveille au sport élitiste. Les riches jouent à merveille au sport riche. Oh, décidément, quel piège là. Je reprends. Les riches jouent à merveille aux riches, avec leurs shorts aux couleurs aussi vives qu'improbables. La plupart ne mettent d'ailleurs jamais les pieds sur le terrain et préfèrent, comme le docteur Faugère, marchait lentement le long du grillage en pantalon de toile rose et en chemisette brune. Les carrés Hermès se portent même en été avec des mocassins à glands et une large montre. Pour un médecin de campagne, c'est sans doute un minimum. Autour du terrain, les plus modestes ne sont pas en reste. Ils ont la chance de fréquenter les bourges et de s'imaginer en être l'espace de quelques heures. Solène est fière que sa mère ait accepté d'être trésorière du club. Voilà, premier extrait où effectivement on a une peinture sociale de ce club de tennis où l'on fait du paraître aussi, bien sûr. Et puis, le drame paysan va arriver. Le suicide de Paturo, c'est un voisin paysan. Il a avalé un produit phytosanitaire, évidemment. Après des difficultés financières, la mort de sa femme, puis de son chien, c'est l'univers glauque de la paysannerie française que vous décrivez, Florent. Un extrait de votre livre. Et là, j'espère que je ne vais pas buter. Lui qui s'en était toujours bien sorti, lui qui avait eu le soutien du Crédit Agricole pendant des années, lui qui pensait même, il y a 6 ans, faire la culbute en investissant 500 000 euros dans de nouveaux bâtiments, 2 ans après, il y avait eu la crise du lait, les coopératives qui achètent au plus bas, les subventions qui servent tout juste à rembourser la banque. Puis cette année, quand sa moissonneuse était tombée en rade, il s'était finalement résigné à payer les services de Jérôme, quitte à être dépendant de son planning. Plus assez de revenus pour dégager un salaire décent, il y eut les nuits courtes et agitées, la maladie de sa femme, un cancer, elle n'aura pas tenu 6 mois, puis la mort de son chien. La solitude et l'angoisse qui tenaillent, la peur de perdre ne serait-ce que 10% de sa récolte. Il ne pouvait pas imaginer la ferme vendue aux enchères. Il ne pouvait pas imaginer le commissaire priseur frappant son marteau sur une petite table de camping à l'abri du vent sur un carré d'herbe, les fouilles merdes fouillant son domaine, achetant son tracteur pour une bouchée de pain, les ferrailleurs et les marchands de bestiaux se disputant la pailleuse, le semoir ou la faucheuse. Le pire étant pour Paturo d'imaginer ses vaches, ses filles, comme il disait, monté dans la bétaillère d'un étranger, puis la cour déserte, les bâtiments vides, la ferme vendue en quelques jours à un retraité hollandais. C'est hélas une image et une scène que l'on a vue souvent dans nos campagnes, Florent.
Ah oui, et pas seulement dans le Berry, je l'observe un petit peu partout. Je parle des Hollandais, j'en ai pu citer les Belges aussi, ou les Anglais, et heureusement ils reprennent des bâtiments qui sont généralement laissés à l'abandon. Il y en a énormément dans ma région et encore cette chance d'avoir des gens qui peuvent reprendre, mais jamais les exploitations agricoles, c'est extrêmement rare. Et c'est vrai que c'est un monde qui s'arrête. Alors j'ai rien contre ça, je sais pas, mais il faut voir ce qu'on construit à la place, et ce qu'on construit à la place, c'est pas très reluisant.
Et évidemment, Paturo, vous l'avez deviné à l'extrait, Paturo s'est suicidé, et tout simplement parce qu'il a craqué. Jérôme est pas très loin aussi de craquer, et pas uniquement par jalousie par rapport à Théo. À la fin de votre livre, Florent, il y a une rencontre très très difficile aussi, et puis il y a des affrontements avec des adolescents. C'est un livre qui est assez dur quand même. À la fois sur la situation paysanne, sur l'adolescence, sur la ruralité.
Oui, enfin c'est le...
C'est la vérité, c'est la réalité.
La vérité, je ne sais pas, c'est la... Je pense que je suis un peu même en deçà de la réalité. Quand on voit le nombre d'agriculteurs qui se suicident sur une année, c'est quand même assez effrayant. Enfin c'est ce qu'on essaye de cacher, qu'on ne montre pas vraiment.
On ne peut pas, Florent, ne pas penser au film d'Edouard Bergeon, hein,
ah oui.
Au nom de mon père, ces agriculteurs qui sont au bord de la rupture et puis qui franchissent le pas, quoi, de manière dramatique, terrible.
Oui, parce quel sens on donne à nos vies, quel sens on donne à notre métier aujourd'hui. C'est vrai que c'est terrible pour ces agriculteurs, notamment ceux qui sont dans l'agriculture conventionnelle, on va dire, conventionnée, c'est-à-dire que on les traite d'empoisonneurs, mais ce sont les premiers à s'empoisonner, et ce sont les premiers qui souffrent de cette situation-là. Que dire de plus, je sais pas.
Ou peut-être qu'écrire de plus, parce que peut-être qu'il y aura une suite. Florent, vous avez goûté donc à l'écriture romanesque, entre guillemets. Il y aura une suite. Enfin, en tout cas, vous avez un deuxième opus en préparation, ça vous tente?
Ah, bien sûr, oui, oui. J'ai mis des années à m'autoriser à écrire un premier livre, donc forcément il y aura un deuxième.
Maintenant. Et il y aura toujours quand même un peu la musique?
Mais il y a toujours la musique, il y a un album qui est en préparation, je fais des musiques de films.
Donc une belle activité, Florent.
J'aime en fait être en création, tout le temps en fait, parce que c'est une façon de me soigner, comme pour reprendre un langage agricole en fait, se soigner, c'est-à-dire prendre soin de soi.
Et puis sans produits phytosanitaires, non. surtout pas. On l'a bien compris en lisant votre livre, qui est aussi quelque part un brûlot contre une certaine société, et en tout cas une certaine manière de travailler la terre, et c'est une belle chose qui nous parle ici même dans les Alpes de Haute-Provence. Merci encore, Florent.
Merci
vous
beaucoup.
Êtes présent aux correspondances. Hier, ça s'est bien passé, votre prestation?
Ben, je crois, oui. Enfin, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à redécouvrir le livre. Alors, c'est parce que c'est étonnant. Il y a d'abord la première phase quand on l'écrit, mais après, quand on porte le texte sur scène, on voit de nouvelles choses, on voit les personnages un peu différemment.
Vous avez la réaction du public aussi en direct.
Aussi. C'est surprenant parce que j'écrivais de manière assez égoïste, enfin, avant tout pour moi, après un petit peu pour mes proches, et j'avais l'impression que ça me suffisait complètement, cette démarche-là, simplement d'avoir rendez-vous avec cette histoire, et le fait de la partager, de parler avec les gens après, fait qu'on se sent moins seul autour de toutes ces interrogations, de ces angoisses, cette vision de la société qui est pas très réjouissante. Enfin, je pense qu'on parfois on aimerait écrire des livres plus gays peut-être, mais
on n'est pas
aidé en même temps.
On a besoin de ce type de littérature aussi pour nous éclairer aussi quelque part. Le monde du vivant, c'est chez Stock et c'est Florent Marché. Vous restez avec nous, Florent.
Oui,
vous allez voir, il y a des choses très passionnantes, et notamment avec notre invité. Il nous avait emballé avec son premier roman « Pourquoi les oiseaux meurent ?» et Victor Pouchet retrouve Manosque avec Autoportrait en chevreuil. Bonjour Victor.
Bonjour.
On reste avec ce roman dans un univers où l'animal est en filigrane, les oiseaux hier, aujourd'hui le chevreuil, on verra à la fin de cette intervention pourquoi. Victor, les animaux, c'est un thème, une passion, un symbole, chez vous, c'est quoi?
Bah, les animaux, c'est ce qui est à côté de nous et n'est pas nous, c'est-à-dire que c'est une énigme. Y a une forme, on a tous une familiarité avec les animaux, et notamment avec les animaux sauvages, il y a une fascination. Et en même temps, c'est la fascination de quelque chose qui nous résiste, donc qu'on ne peut pas réussir à comprendre, et donc on va chercher des formes animales peut-être pour comprendre sa vie, pour trouver des échos. Et ce sont des énigmes d'être sans énigmes. Il suffit de voir un chevreuil courir, ou de voir un fou de bassin plonger, un aigle fondre sur sa proie, pour être dans une fascination qui est la fascination pour une évidence de vie, et on aimerait être dans cette évidence. Hélas, nous sommes à nous-mêmes nos propres problèmes, et donc ça résiste.
Alors, il y a déjà la première énigme, c'est le titre de votre livre, Autoportrait en chevreuil, c'est paru chez Finitude. On verra pourquoi ce chevreuil, parce que c'est vraiment très, très, très particulier. Et cette histoire, l'histoire que vous racontez, nous conduit dans un village sans nom, où le père d'Elias, lui aussi, n'a pas de nom, mais une fonction très particulière. Il est magnétiseur, un brin sorcier, coupeur de feu, et on vient de toute la région pour le consulter. Parmi ses dons, le fait de connaître la date et les conditions de la mort des autres, ce qui terrifiait Elias. Elias est le personnage principal. Le père élève son fils à la dure et veut lui transmettre le flambeau. Alors, il y a le portrait du père, justement, qui est déjà passionnant, et que je vais lire un extrait, si je retrouve. Là aussi j'ai un petit problème. Maintenant que j'y pense, ça y est, Maintenant que j'y pense, mon père ne croyait pas simplement aux ondes. Il croyait peut-être surtout aux mots, aux formules magiques, l'énergie scalaire, le taux vibratoire, les sons pulsés. Mon père vivait dans une forme de grande symphonie de mots censés décrire des vibrations, mais signifiant sans doute essentiellement leur propre résonance. Il se nourrissait de ces mots et de la physique mystique qu'il cachait. Mon père ajoutait des dimensions à d'autres. Ce n'était pas un charlatan, je crois, ou disons que ce n'était pas plus un charlatan que certains qui se prétendent de grands rationalistes. Il avait besoin que l'invisible prenne des noms et des formes, que la force paradoxale de toute chose puisse être mise au jour. Mon père promettait souvent d'écrire son grand traité des ondes et que sa publication serait un tel scandale physique et métaphysique que le monde ne s'en remettrait pas. Un jour, je lui ai demandé s'il ne craignait pas qu'en inscrivant tout son savoir dans un livre, les gens lui volent ses recettes, recopient ses idées et se les réapproprient. Je songeais, sans le lui dire, au sorcier à qui on vole son grimoire. Je me souviens de sa réponse. Ils pourront toujours tout recopier, ils ne comprendront rien. On a du mal, nous aussi, Victor, à comprendre de temps en temps où vous avez cherché tout ce vocabulaire et évidemment ce personnage particulier de chaman à la campagne.
Oui, alors ce personnage, pour raconter comment est-ce qu'il m'est arrivé, j'ai commencé par le rencontrer, c'est-à-dire que je...
Il est réel,
presque. Il y a eu un élan réel. Évidemment, ensuite, j'ai poursuivi et j'ai réinventé ce que le réel m'a proposé. Mais je marche depuis quelques années avec deux amis autour de la France. Et donc, on a commencé un tour de France à pied par étapes. Et il se trouve que pendant une des étapes, c'était en 2017, marchant donc dans le sud de la Bretagne, on a fait une pause pour boire un coup et il y avait des menhirs, quelques pierres dressées, et il y avait sur ce chemin un type qui avait branché un certain nombre d'appareils et qui évidemment nous a étonné vers qui on est allé et qui en fait a récolté ce qu'il disait être des ondes scalaires. Moi j'ai passé 2 heures avec ce personnage
intrigué,
curieux, fasciné, ouais. C'était un être qui à la fois avait des discours très très rationnels, très scientifiques, mais aussi des discours qui ressemblaient à une forme de magie très étrange, prétendant qu'il y avait un géant, qu'il y avait ses traces ici, nous proposant des expériences avec des bâtons d'Horus, donc une sorte de bâtons métalliques provenant d'Égypte ancienne. Et voilà, j'ai passé du temps avec ce type sans trop savoir ce qui me fascinait chez lui. Et quelques temps après, je suis revenu chez moi, j'ai noté des choses. Et j'ai rouvert des cahiers, j'ai des cahiers dans lesquels je note régulièrement des phrases. Parmi ces phrases, des phrases qui parfois deviennent des paragraphes, qui deviennent parfois quelques pages. Et parmi ces phrases, il y avait notamment une phrase qui disait le seul animal dangereux, c'est le chevreuil, m'a dit mon père. Je te
et
le répète,
et
le chevreuil.
Et même le chevreuil.
Voilà.
Pour bien insister sur ces deux syllabes très particulières.
Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que cette phrase, elle avait été prononcée par ce type. Et donc d'un coup, je me suis dit, voilà, ce personnage, qu'est-ce qu'il est, et surtout, qu'est-ce que ça peut faire d'avoir été élevé par quelqu'un comme ça. En fait, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est pas simplement ce personnage de magnétiseur, médium, mais c'est qu'est-ce que ça fait de grandir, élevé par quelqu'un qui est habité par des obsessions, par des croyances si étranges, mais qui ne sont pas simplement des croyances étranges, qui sont parfois des croyances comme on en a toutes, au bord de la superstition et de la magie. Et donc j'ai poursuivi ce fil qui est devenu le fil de ce garçon, Elias, qui donc raconte son enfance, qui est une enfance un peu hors norme, mais qui est une enfance en même temps pas complètement bousculée, et comment est-ce que cet enfant va réussir à vivre malgré ça ou avec ça.
Alors c'est vrai que c'est un livre sur la filiation aussi, quelque part. Oui. On suit l'intrigue du livre qui est écrit à la première personne, mais avec 3 personnages différents chaque fois. Elias, donc, pour la première partie, puis après c'est Avril, sa compagne, qui est en charge de la seconde, avant une conclusion très courte, une dizaine de pages à peine, où le père donne les clés du roman. Cette construction est surprenante, Victor, mais l'épilogue est marquant de puissance et de style. 3 livres en un, en fait.
Oui, en fait, j'ai commencé par écrire cette première partie à la première personne, ce garçon qui raconte son enfance. Sauf que dans cette enfance, il y a un drame souterrain qu'il appelle le grand accident. Et un drame qui est tellement puissant qu'en fait, il ne peut pas le raconter. Il y a quelque chose qui résiste.
Il est traumatisé.
Il y a un traumatisme, et un traumatisme qu'il ne peut pas se dire à la première personne. Et donc, j'ai imaginé, en effet, que ce personnage, on allait le voir à travers différents regards, qui vont être différentes voix. La voix de, d'abord sa voix, puis la voix de la femme avec qui il vit, qui est Avril, et qui, dans son journal, raconte leur rencontre, essaie de tourner autour de ce personnage. Et je voulais aussi que le père ait la parole, et donc la dernière partie, en effet, c'est le discours que le père adresse à Avril et qui vient un peu résoudre les choses. En fait, ce qui m'intéresse dans cette construction en trois parties, c'est que, en fait, on n'a jamais accès à la réalité ou à la solidité d'une existence. Il y a toujours quelque chose qui résiste et on est obligé d'en passer par... on n'a accès qu'à des facettes des êtres. Et donc, petit à petit, le portrait de ce personnage se dessine, un peu comme on verrait une forme apparaître dans les branchages qui peu à peu prend une solidité, mais s'efface aussi à mesure. Voilà les raisons de cette construction en trois parties.
Avec, en plus, je le rappelle, un personnage donc sans nom, ce qui rajoute encore au mystère. Alors, si on se place du côté d'Elias, le début est son enfance dans la cellule familiale avec son petit frère Anne, mais attention, sans eux, c'est un petit garçon, qui suivait les enseignements paranormaux du père, et puis c'est sa rencontre amoureuse et sa vie d'adulte avec Avril, et au final, la filiation avec la confession paternelle à sa belle-fille, et non pas à Elias. J'ai choisi un extrait du journal d'Avril, autrement dit la seconde partie, et c'est sa première rencontre avec Elias, qui travaille dans une bibliothèque. Et c'est un journal, hein, donc c'est le 12 septembre 2018. J'ai recroisé le bibliothécaire brun à la machine à café. Il a un pull vert en nid d'abeille, semi-moche. J'avais déjà eu l'impression qu'il me regardait l'autre jour. Il n'est pas vraiment beau, mais il a quelque chose d'attirant. Il ressemble à Vincent Lacoste mélangé à Buster Keaton, avec un grand regard sombre et des bras un peu trop longs. On dirait qu'il est bancal. Je ne sais pas, il a une gestuelle instable ou peut-être c'est dans le regard ou dans les bras qu'il ne sait pas où mettre. Comme il n'y a personne, il se met à me parler, me demande ce que j'étudie. Je lui dis que je cherche des choses sur les jardins pour mon boulot. J'exagère un peu le projet d'aménagement. Il me parle d'un jardin en Italie avec des monstres, je ne sais plus où. Pas trop compris, mais il me fait rire. Il parle un peu par à-coups, comme s'il lançait des choses dans l'air au hasard. Dans l'après-midi, je commande un livre de botanique japonaise qui n'est pas en rayon. Dans la fiche qu'il me donne avec le livre, il y a un mot avec son numéro et son nom, Elias, mais je l'enregistre à Bancal Bibli dans mon téléphone. Ça sonne bien, Bancal Bibli. Ça fait presque un nom cohérent, un nom de super-héros ou de personnage de livre pour enfants. Soirée avec Étienne, rien de cinglant à signaler. Étienne, c'est son copain du moment, c'est le journal justement. Cette première rencontre avec Bancal Bibli, elle va donner lieu à une histoire d'amour.
Oui, tout à fait. Il y a ce livre, il y a plusieurs strates qui se superposent. Il y a l'histoire de cette enfance, il y a une histoire d'amour, et donc il y a aussi une vie très normale. On pourrait, ce que j'ai dit avant, on pourrait penser que c'est un livre très très bizarre. En fait, c'est quelque chose aussi sur ce qu'on vit tous, c'est-à-dire une rencontre avec quelqu'un qui est, quand on rencontre quelqu'un, le plus souvent il est étrange. Et on a tous aussi dans nos enfances, qu'on a été élevé ou non par un magnétiseur, on a tous des brisures, des choses, des souvenirs carrefour qui sont nourris de failles. Et donc je voulais que soit racontée cette façon dont on se relie à un autre qui résiste, qui est étrange, mais dont finalement quelque chose comme un amour se naît.
Alors avec Avril, justement, Elias ne parle pas de son père, ni de ses traumatismes, mais un jour il laisse échapper l'expression « le grand accident ». Et lorsqu'Avril est enceinte, et ils vont voir le père pour la première fois afin de mesurer les ondes, forcément, le père se confiera à la jeune femme et raconte notamment le sauvetage d'un chevreuil tombé dans la piscine municipale, le seul animal dangereux, le chevreuil. Explication de l'énigme ?
Non.
Non.
Non, surtout pas. Non, non. Je ne voudrais pas.
Vous avez compris la malice de ma question.
J'ai construit tout ça pour que l'énigme, en effet, ne se résolve qu'à la fin et qu'il y ait une tension. Je crois d'ailleurs que la question de l'énigme m'intéresse. En fait, je pense qu'on vit tous entre science et magie, et qu'en fait, un des besoins essentiels que l'on a, c'est de ne pas comprendre. C'est que les choses résistent. C'est pour ça qu'on aime les énigmes, justement. C'est pour ça qu'on aime les devinettes, qu'on aime les romans aussi, parce que les romans mettent du temps à dévoiler les secrets qu'ils contiennent. Et donc, je suis désolé de vous dire que si l'énigme doit se révéler, en plus elle se révèle de façon complexe et ambiguë, on est obligé de lire.
Il faut lire jusqu'à la fin.
C'est pas très long, par exemple.
Jusqu'à la fin. Mais ne commencez surtout pas par les 10 dernières pages. Vous n'y comprendriez absolument rien.
C'est souvent le cas pour les livres.
Hein. Autoportrait en chevreuil, c'est de Victor Poucher, c'est chez Finitude. Alors, vous nous avez préparé une petite surprise complètement improvisée, Victor.
Oui, que je n'ai d'ailleurs pas préparé. Mais...
Vous allez lire un extrait de votre livre que vous avez choisi. Ça, vous l'avez préparé. Et Olivier Vauquelin, qui est resté avec nous, va jouer d'un instrument très particulier. Alors, Olivier, ça s'appelle un buta drum, c'est ça ?
Exactement, voilà.
Donc, c'est un instrument métallique, oui. Et qui permet de faire du son. Je vois Florent Marché qui est intéressé et qui n'a pas encore entendu la sonorité de ce truc bizarre.
Quoi. Voilà, pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir l'instrument, c'est... Voilà, bon, en fait c'est une petite bouteille de gaz type Twinny pour identifier un peu le format et pas la marque. Voilà, je l'ai taillé, je l'ai découpé et puis je l'ai accordé. Voilà.
Et ça sert à accompagner des lectures, comme par exemple sur le plateau de Fréquence Mistral, une lecture de Victor Poucher et que vous allez accompagner. Et nous, on va se taire.
Donc c'est un passage dans la première partie du livre où Elias tente de récolter, retraverser quelques souvenirs d'enfance. Mon père m'imposait un certain nombre d'exercices. Des exercices de silence prolongé, une demi-journée sans parler. Des exercices de philosophie ondulaire, etc. Celui qui me déplaisait le plus était l'exercice de grand froid. Il consistait à s'immerger dans le lac de Sévestin. Mon père m'y plongeait. Je devais mettre tout le corps, la tête comprise, dans cette eau brune qui me terrifiait. Mon père me tenait par la main, c'était l'hiver et je me souviens de la marche que nous devions faire sur le chemin boueux jusqu'au lac. Ce qui est étrange, c'est que j'avais conscience de l'anormalité de tout ça, mais qu'en même temps je voulais faire plaisir à mon père, j'acceptais les choses. Il ne faisait pas cela par violence envers moi, je ne le ressentais pas comme ça en tout cas, même si aujourd'hui on pourrait penser autrement. Il semblait croire au bienfait de son expérience, de sa formation. Il voulait que je devienne pur, libéré des ondes, et libéré aussi de moi-même comme producteur d'ondes. Le mot « onde » était un peu le mot de passe pour tout et n'importe quoi dans l'esprit de mon père. Onde orgueil, onde paresse, onde faiblesse, onde mensonge. Que se passerait-il lorsque je serais libéré des ondes ? Je me souviens que mon père l'avait crié cette fois que j'étais ressorti de l'eau en larmes. « Tu te libères, Elias, tu te libères !» Je tremblais, j'étais frigorifié, je détestais l'eau froide. Les exercices d'immersion étaient les plus éprouvants pour moi. Mon père m'avait dit « Tu sais, en te renforçant, tu vas devenir pur, extrêmement pur. » Et c'est par toi que pourra se refonder le monde. Ça tient à toi, alors fais un effort. Arrête de pleurer, fais un effort. Je n'avais pas réussi à arrêter de pleurer. Dans la voiture, pour rentrer à la maison, je sanglotais encore, et mon père continuait à crier. J'avais du mal à penser que mes sanglots refondraient un monde, dont je ne pouvais plus ignorer, hélas, qu'il était en train de s'effondrer. Il y a des larmes pour tout. Peut-être qu'il faudrait faire sa propre histoire des larmes. Histoire des larmes qu'on a versées. Histoire des larmes qu'on a vues verser. Histoire des larmes qu'on a empêchées, qu'on a essuyées. Histoire des larmes qu'on n'a pas réussi à verser au bon moment. Des larmes retenues. Histoire des larmes qui nous ont fait pleurer et des larmes qui nous ont fait rire. Histoire des larmes pour de faux et histoire des larmes décevantes. Histoire des larmes surprises et des larmes mécaniques. Des larmes à plusieurs et des larmes solitaires. Des larmes cinématographiques et des larmes sauvages. Histoire des larmes légères quand on vous prend par la main au moment où on ne l'attendait pas. Et des larmes du fond de la gorge, quand toute la haine de soi et l'incompréhension remontent d'un coup, et qu'on a envie de tout briser, mais qu'on a la force de rien. Voilà. Il faudrait faire un grand montage de toutes les scènes de larmes de notre vie. Un grand défilé de sanglots. Un long travelling sur notre rivière de larmes. Et hop, ça serait réglé. On saurait à quoi s'en tenir. On pourrait se repasser le film.
Victor Pouchet dans ses œuvres, avec accompagné par Olivier Vauquelin à son instrument très 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 bizarre. Un très beau texte, Victor. Effectivement, c'est, on est marqués tous par des scènes particulières qui nous ont fait pleurer, que ce soit de rire ou souvent de tristesse. Et donc c'est un extrait où on voit bien l'éducation à la dure d'Elias par son père, qui comprend pas qu'un petit garçon peut pas suivre ce genre de choses et qui essaie de l'emmener sur les terrains des ondes scalaires, c'est ça, de ces vibrations très particulières.
Je ne peux pas tout à fait vous expliquer, moi non plus, parce que je ne suis pas magnétiseur, hélas.
Restons dans le mystère.
Mais en effet, c'est ce qu'il cherche à capter.
Votre actualité, c'est tout à l'heure avec... vous serez interviewé par Michel Abesca, c'est sur la place d'Herbès, avec Patrick Lapeyre, c'est à 15h, c'est ça?
Exactement.
À 15h à Manosque. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Manosque, Victor. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival?
J'en pense du bien.
Oui, heureusement.
Non, je trouve que c'est, et particulièrement cette année, c'est quand même très très joyeux, très réconfortant qu'une manifestation comme ça puisse avoir lieu. Et puis c'est vrai que il y a toujours quelque chose de très impressionnant de voir autant de monde dans les rues assister à des spectacles. Hier, j'ai assisté à plusieurs rencontres. Il y avait un Mistral, des averses violentes. Les gens restaient, écoutaient ces écrivains. Parler, et voilà, il y a des belles lectures, des concerts littéraires toujours étonnants. Et donc
il a fait froid aussi hier. Un ami parisien qui m'a dit, c'est la première fois que j'ai besoin d'acheter un pull-over pour les correspondances.
Sont hostiles, mais on reste parce qu'on est heureux de d'avoir accès aussi de façon aussi simple et aussi belle à la littérature.
Et vous l'avez dit particulièrement cette année, parce que cette année on a quand même pris dans la figure beaucoup de choses. Quel effet ça va vous faire tout à l'heure d'avoir un public masqué, même si on s'y habitue un petit peu quand même, c'est un peu particulier. Hein. Ben Florent qui est resté avec nous, hier dans votre concert, vous avez, concert lecture, vous aviez un public masqué, comment ça s'est passé? Comment on reçoit ça quand on est sur scène?
Je vais dire malheureusement ou heureusement, on s'habitue à tout, y compris à une rage de dents, donc effectivement, ça fait plusieurs spectacles que je fais avec un public masqué. Ce qui m'a frappé récemment, je regardais un film où il y avait des gens qui faisaient des accolades, qui s'embrassaient, et j'ai été choqué. Donc c'est plutôt ça qui m'inquiète.
Vivement
en fait.
Le retour au choc, si vous voyez voilà. Ce que je veux dire, vivement. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci Victor Pouchet pour cette magnifique lecture et puis bien sûr pour cette complicité complètement improvisée avec Olivier Vauquelin. Merci aussi Florent Marché. Merci. Continuez à écrire aussi bien de la musique que de la littérature, ça nous botte bien et c'est parfait. Et je rappelle donc Le Monde du Vivant chez Stock. Florent Marché, si vous aimez notre paysage, il faut lire ça et vous aurez une belle vision de ce qu'on pourrait faire peut-être pour changer les choses. Merci également à Olivier Mouly qui a assuré notre régie, et puis n'hésitez pas à vous rendre sur sur le festival. Olivier, oui.
Oui, pardon, j'avais parlé au début de l'émission et j'ai eu toute l'émission pour me dire, mince, j'ai oublié plein de choses. Je vais pas rappeler tout ce que j'ai oublié, mais je voulais absolument remercier et embrasser, et pas que du coude, Laetitia, Virginie et Marie-Christine d'Éclat de Lire, voilà, pour qui j'ai une pensée tout particulière aujourd'hui.
Nous aussi, on espère pouvoir le faire bientôt, et pas du coude, comme vous l'avez dit, et sans masque. Merci beaucoup à tous les trois, et profitez bien des correspondances de Manosque. Je rappelle que cette émission sera disponible sur notre site internet dans quelques petites minutes. Merci à tous, bon festival.